France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. D'abord, impossible de commencer cette émission sans un hommage à un collègue du service public. Il a connu 4 présidents de la République, 8 premiers ministres, a épuisé 122 coiffeurs et en désespoir de cause a lancé des sujets comme incroyable, la Marguerine fait son retour. Ce soir, c'est le dernier JT de David Pujadas sur France 2. Alors, on ne se connaissait pas, mais à force de regarder ton journal et de manger des croustichots hein, devant la télé en apprenant des nouvelles du monde, on a presque lié une relation. Moi sur mon canapé, toi derrière l'écran, je m'excuse pour ce qu'elles sont pas toujours assorties. Hein, voilà, peut-être m'auras-tu vu. En tout cas, bonne continuation à David Pujadas. Si on rassure les intermittents qui aiment envahir le plateau, le 20h de France 2, ça continue. Donc, pas de panique pour les prochaines actions. Et eux, ils sont venus discuter d'actualité ce soir. Les informés de France Info reçoivent Jeannick Halimi, bonsoir, du Parisien aujourd'hui en France. Également, le porte-parole du Parti Socialiste, Julien Drey, bonsoir. Également l'écrivain et chroniqueur Antoine Bueno, bonsoir. Et le communicant Jean-Christophe Gallien, bonsoir.
Bonsoir.
Et ce soir, nous irons un petit peu aux États-Unis. On parlera d'éducation, on parlera bien sûr de la campagne législative. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors en matière d'environnement, vous savez, il faut toujours montrer l'exemple, notamment quand on est une institution comme le Parlement européen. Eh bien apparemment, donc le Parlement européen est très en pointe sur le recyclage, surtout d'assistants parlementaires. Pendant la campagne présidentielle, on se souvient de l'affaire des assistants parlementaires Front National rémunérés par l'Europe, mais travaillant au siège du parti frontiste. Le 30 mai dernier, le Parisien, aujourd'hui en France, révélait que 19 eurodéputés étaient visés depuis 2 mois par une enquête préliminaire ouverte au parquet de Paris, donc pour abus de confiance. Et parmi eux, Marielle de Sarnez, proche de François Bayrou est ministre chargé des affaires européennes. Aujourd'hui, on a appris qu'un signalement a été fait auprès de la justice pour apporter des éléments concernant le MoDem, donc le parti de François Bayrou et de Marielle de Sarnez, un témoignage émanant d'un ancien assistant affirmant avoir été rétribué par l'enveloppe parlementaire européenne pour ne travailler qu'au siège du parti à Paris. Alors ce soir, le MoDem affirme avoir respecté toutes les règles, tout est normal et légal, embarrassant tout de même pour l'ex-député européen MoDem, Corinne Lepage.
Je ne le connais pas. Et puis moi, j'ai quitté le MoDem en mars 2010. Donc vous voyez, ça fait 7 ans et demi. Ce que dit cette personne, c'est qu'en réalité, il n'a jamais travaillé pour Jean-Luc Benamias, qu'on lui a fait signer un contrat en blanc dont il n'a jamais eu la copie et qu'il subodore le fait que ce serait un contrat d'assistant parlementaire. Voilà, donc bon, écoutez, il y a une enquête préliminaire qui est en cours. Je pense que la justice fera son travail. Alors la difficulté, c'est qu'effectivement, le patron du parquet se trouve être François Bayrou.
Voilà, c'est embêtant, Corinne Lepage, donc ex-député européen MoDem. Julien Drey, c'est une affaire embarrassante?
Je ne sais pas, il faut regarder les choses. Ce qui est vrai, c'est que si les choses se développent, et s'il y a effectivement des assistants parlementaires qui étaient pris sur l'enveloppe européenne, travaillent au parti, c'est compliqué d'avoir le ministre de la Justice qui est mis en cause. Là, il y a une difficulté objective, quoi. Sans vouloir commencer des chasses aux sorcières, là, il y a une difficulté objective. Donc, il va falloir regarder ce qui va se passer dans les heures qui viennent.
Et est-ce que c'est finalement, on a vu le Front National, d'ailleurs, cette plainte sur les 19 vient hein, d'une élue Front National au Parlement européen. Est-ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est une pratique régulière des partis politiques?
Non, il fut un temps, c'est vrai, mais c'est dans les temps passés où les parlementaires, par exemple, à l'Assemblée nationale, on avait des collaborateurs et on pouvait céder une partie de notre contrat collaborateur au groupe. C'est-à-dire, soit vous payez une cotisation, donc c'était sur vos ennemis, ou alors sur vos émoluments, pardon, ou soit vous cédiez une partie de votre contrat collaborateur, mais là, c'était au groupe parlementaire. Après, le groupe parlementaire, il s'organisait. Au parti, normalement, non. Voilà, c'est pas comme ça que ça se faisait. Alors après, c'est vrai qu'il y a une évolution des mœurs, et avec des choses qui maintenant deviennent ce qui était toléré auparavant, les plus, ne serait-ce que parce qu'il y a le financement public des partis. À l'époque, il n'y avait pas le financement public des partis. Aujourd'hui, il y a un financement public des partis, donc c'est vrai que ces pratiques-là, elles devraient tomber en désuétude.
Jeannick Halimi, c'est donc cette affaire date de 2011. C'est Jean-Luc Benamias qui, à l'époque, était député. Il y a beaucoup d'ex en fait hein, au MoDem. À l'époque, était donc député MoDem. Mais le président de cette formation du MoDem, Julien Drey l'a dit, c'est François Bayrou qui est aujourd'hui ministre de la Justice et Marielle de Sarnez, ministre chargée de l'Europe. Est-ce que voilà, à un moment, c'est embarrassant, gâche... l'affaire Ferrand,
ça gâche la fête, comme disent les macronistes dans la coulisse. L'affaire Ferrand, ça gâchait. Là, ça va encore plus la gâcher. D'autant plus que le garde des Sceaux, on l'a dit, on l'a répété, on va le répéter encore. Porte la loi sur ce qui ne s'appelle plus la moralisation de la vie publique, mais ça revient au même. Donc c'est très délicat. Alors ce qui s'ajoute aujourd'hui, il y avait effectivement une enquête préliminaire qui était ouverte, mais les juges, les magistrats, enfin, disaient, là aussi, dans la coulisse, c'était compliqué à faire la preuve de l'emploi, l'emploi fictif, puisque au service du parti et non pas du député, de l'eurodéputé. Là, dans la mesure où il y a un témoignage, alors après, comme tout le monde le dit, il faut laisser faire la justice, mais c'est sûr qu'il y a l'affaire judiciaire, et puis le gouvernement, enfin, Édouard Philippe et peut-être Emmanuel Macron, va pas pouvoir faire longtemps l'économie d'une mise, au moins d'une mise au point, voire d'une mise au clair.
Jean-Christophe Gaillen, c'est ça, on avait surtout dit, à propos, par exemple, Richard Ferrand, on avait dit, c'est le sparadrap qui va coller, parce que quand Édouard Philippe avait dit, les électeurs jugeront. Voilà, ce sont les juges de paix. Est-ce que finalement, si aujourd'hui Richard Ferrand est réélu, s'il est ministre, est-ce que ça ne va pas coller de nouveau encore, toujours à cette personne, comme là, François Bayrou, Marielle de Sarnez?
Ben, on a un peu un Ferrand Gate malgré tout, même s'il n'est pas décrit comme tel. Là, on peut avoir quelque chose de plus important parce que ça touche un mouvement et surtout, finalement, dans les deux cas, des prédicateurs de la vertu politique. C'est ça qui est inquiétant. Je trouve que, je rebondis sur ce que disait Julien Drey, il fut un temps, jusqu'à très, très peu de temps, tout ça était tout à fait accepté par tous. Il n'y avait pas d'enjeu de détournement d'argent à titre personnel là-dedans, on est dans des organisations partisanes. Aujourd'hui, on a eu une affaire de montée en puissance. Encore une fois, extrêmement dur, radical dans cette campagne très violente, et très violente parce qu'on affirmait des concepts de moralisation de la vie politique, avec des définitions qui étaient parfois géométrie exagérées.
Ce qui donne cette loi.
Et aujourd'hui,
et c'est François Bayrou qui l'a fait.
Exactement. Et donc on fait face. Et là, il va y avoir une épreuve pour Emmanuel Macron, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas. Édouard Philippe en particulier aussi. Est-ce que je suis moi-même capable de faire le ménage chez moi ou pas? Si je le fais pas, je laisse faire la justice effectivement, mais avec à sa tête quand même quelqu'un qui est mêlé aussi dans l'affaire. C'est une vraie épreuve. Et si c'est pas un modem gate, c'est quelque chose qui peut y ressembler très rapidement.
Oui, Antoine Bonneau, on est là sur.
Attendez, moi, ça fait 14 ans que je travaille pour le groupe centriste du Sénat, donc j'ai quand même un devoir de réserve.
Je ne veux pas
m'étendre
là-dessus.
Justement,
vous les connaissez bien.
Mais ce que je peux vous dire, justement, alors,
ça tombe bien.
Ce que je peux vous dire, en toute honnêteté, c'est que j'ai jamais rien vu de tel dans mon entourage. Et par ailleurs, je suis pas l'avocat de François Bayrou, mais à partir du moment où il demande une loi de moralisation de la vie politique, où il porte ça, il est quand même pas débile. Le gars, c'est qu'il pense qu'il ne peut pas être atteint, qu'il n'a pas connaissance de choses qui pourraient entamer son positionnement politique. Ou alors, vraiment, j'ai rien compris.
Vous savez, j'ai connu un candidat à l'élection présidentielle qui s'appelait, je ne sais plus comment, qui pensait lui aussi qu'il était candidat à l'élection présidentielle, qu'il n'avait aucun problème et qu'il ne voyait pas ce qu'on lui reprochait. Donc, en la matière, je suis prudent.
Voilà, c'est de François Fillon. On y revient dans un instant. L'info à 20h10, c'est Stéphane Milhomme.
Et d'abord du tennis avec Roland Garros, direction la finale pour la Roumaine Simona Halep. Elle vient de battre la Tchèque Pliskova, la première dame qualifiée pour la finale cet après-midi. Elle n'a que 20 ans, la Lettonne Ostapenko qui a battu la Suissesse Bachinski et c'était en 3-7. Le Modem assure avoir respecté toutes les règles sur l'emploi de ses assistants parlementaires alors qu'un ex-collaborateur du parti a contesté hier devant la justice la réalité de son emploi comme assistant parlementaire. Auprès de Jean-Luc Benamias. C'est une information France Info. Au total, une dizaine d'employés du Modem étaient rémunérés comme assistants parlementaires européens. L'ancien évêque d'Orléans, André Faure, mis en examen pour non-dénonciation d'actes pédophiles. C'est une information France Bleu Orléans. Les faits qu'il n'aurait pas dénoncés concernent un prêtre mis en examen en 2012. Le long témoignage de James Comey devant la commission du Sénat après son limogeage du FBI. L'ancien directeur accusé s'est montré très explicite. J'estime que Donald Trump m'a limogé à cause de l'enquête russe. Le but était de modifier la façon dont l'enquête sur la Russie était conduite. C'est très grave, une audition de plus de 2h30. Et puis, autre information, après 16 années de 20 heures, David Pujadas présente ce soir sa dernière édition sur France 2. Le journaliste de 52 ans laissera la place d'ici quelques semaines à Anne-Sophie Lapix qui arrive de France 5.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, encore un mot justement à propos de cette histoire d'assistants parlementaires. Souvenez-vous, ici on en a beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle. On a parlé au niveau national avec des soupçons d'emploi fictif autour de François Fillon. On en a beaucoup parlé au niveau européen avec le Front National pendant la présidentielle. Et là, eh bien, il pourrait s'agir du Modem, le parti de François Bayrou. Juste une chose, je viendrai à la base, il y a une plainte déposée donc par une députée FN, Sophie Montel. Est-ce qu'il y a aussi une volonté du Front National nationale de créer aussi un petit écran de fumée autour de leur propre affaire.
Oh, c'est pas, il n'y a pas besoin d'être sorcier pour comprendre qu'effectivement, ils tentent ça, quoi. Ouais. J'essaye de considérer que tout le monde est mouillé. C'est classique en matière de défense judiciaire. Ça marche en général pas très bien. Bon, après, il faut regarder les choses telles qu'elles vont se développer. Moi, je suis toujours prudent sur les affaires judiciaires parce que j'aime pas aboyer avec les meutes, me lancer à l'assaut. Il y a des procédures, il faut les respecter, il faut les regarder. Et je continue sur le débat sur les gens sont pas débiles, ils font pas n'importe quoi. Vous savez, quand il s'agit d'être ministre et quand il s'agit d'approcher le pouvoir, des fois on a des surprises.
Oui, Antoine Bonneau. Enfin, après l'affaire Fillon, on est quand même un petit peu plus prudent.
Mais le pouvoir rend fou les femmes et les hommes.
Les hommes surtout.
Il faut la parité aussi dans ce domaine-là.
Même si François Bayrou et Marielle de Sarnez étaient convaincus de leur probité, la moindre des choses au regard de tout le contexte et puis des fonctions qu'ils étaient amenés à assumer, c'était de le dire à Emmanuel Macron, de le dire explicitement. Et s'ils l'ont dit, Emmanuel Macron a pris ses responsabilités. S'ils ne l'ont pas dit, il y a une erreur, voire une faute dans la solidarité gouvernementale, quoi. Enfin, ou pré-gouvernementale.
Jean-Christophe Gallien, on se souvient d'une chose pendant la campagne présidentielle, quand cette affaire des assistants parlementaires européens pour le Front National a explosé. On a vu finalement, au départ, Marine Le Pen ne pas tellement décrocher dans les sondages parce que beaucoup de Français avaient ce sentiment, c'est l'Europe, c'est loin, finalement, c'est pas grave. Ils se sont dit, finalement, ce n'est que l'Europe. Alors que l'argent, en fait, c'est aussi de l'argent français, hein, faut le dire, voilà, pour l'Europe. Est-ce qu'il y a ce sentiment, vous pensez, autour de ces affaires-là, d'assistants parlementaires européens, moins grave qu'autre chose?
Moi, je pense qu'il n'y a pas qu'au niveau européen. Je pense qu'il y a un décalage, là aussi, entre une perception extrêmement exigeante, presque radicale de cet aspect moralisation. Il y a des usages, il y avait des fonctionnements. Finalement, on en savait un petit peu, on en savait beaucoup aussi. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un niveau d'exigence supérieur au niveau des citoyens? Certainement, parce qu'effectivement, il y a une addition, il y a quelque chose qui se rajoute, il y a une espèce de millefeuille qui grossit, et on a l'impression que tout le monde, tous les politiques sont concernés par ces affaires. C'est ça le risque, surtout. À la fois d'aboyer en permanence et d'exiger une probité parfaite avec des exigences qui sont dans le projet de loi, qui sont pour certaines complètement idiotes, voire ridicules, et qui vont concerner toute la classe politique, ce qui est à la fois chacun d'entre nous aussi, c'est les représentants du peuple. Et puis en même temps, on nous décale de la réalité de ce qui se passe dans un certain nombre de fonctionnements et surtout d'exigences. Le gouvernement de la France, c'est évidemment de penser à ça, mais c'est aussi à penser une vision du pays, aller plus loin. Donc on décale les enjeux.
Julien Drey, pour vous, trouvez ça, justement, aujourd'hui on demande...
Je pense qu'on est un peu rentré dans l'excès. On est rentré dans l'excès et je suis effectivement d'accord pour dire que, par exemple, dans le projet de loi, il y a des choses qui prouvent d'ailleurs que ceux qui ont conçu ce projet de loi ne connaissent même pas la vie parlementaire. Par exemple, passer d'un extrême à un autre, c'est-à-dire, on a, sur le plan de la réserve parlementaire, on a un système qui maintenant, je trouve, est un bon système, celui qui a été mis en place par Claude Bartolone. Chaque député rencontre publiquement, de manière transparente, de sa réserve parlementaire. Mais la réserve parlementaire, elle est utile pour le tissu associatif. C'est souvent des petites associations qui n'ont pas accès, qui n'ont pas les spécialistes pour faire les dossiers, etc., qui vont voir leur député, lui, il peut intervenir. Donc on supprime ça du jour au lendemain, alors que le système marchait bien. Pourquoi? Alors avant, il était totalement opaque et ça donnait lieu effectivement à des... Moi, j'ai connu ça au début, où on nous expliquait même pas, quand on était jeune parlementaire, qu'il y avait une réserve, fallait le découvrir. Et après, il fallait le taper.
C'est une chasse au trésor, dites-moi, voilà. Parlement.
Au début, moi, j'ai découvert un soir de discussion budgétaire ce qu'était la réserve parlementaire. Et là, j'ai été évidemment voir le rapporteur spécial du budget, qui était un personnage imminent. J'ai dit, moi, tu m'as oublié, là. T'es un jeune, mon pote, il faut attendre. Bon.
D'accord.
Donc, mais ça n'existe plus. Donc, on a mis en place un système. Voilà. De la même manière, moi, je veux bien sur les emplois familiaux. Alors maintenant, on passe d'un extrême à un autre. La question qui était posée, c'est la question de l'effectivité du travail.
Non,
pardon, moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous qui dites qu'on va trop loin. Alors peut-être que sur la réserve parlementaire, la supprimer totalement, la rendre plus transparente, ce qui est déjà le cas, peut-être. Mais sur le principe même de moraliser encore plus, moi je pense que après on va pas peser au trébuchet chaque article de la loi dont on connaît pas d'ailleurs les tenants, les aboutissants. Mais bon, sur la philosophie générale, pour deux raisons, je suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, si vous me permettez. D'abord parce que à l'étranger, dans des pays tout à fait honorables, certains de ces points points que nous, nous découvrons, que nous mettons sur les fonds baptismaux, sont déjà expérimentés depuis des décennies. Par exemple, les emplois familiaux comme assistant parlementaire à Bruxelles, tout simplement, ou à Strasbourg. Et deuxièmement, je pense qu'on est en droit de demander beaucoup de choses, pas trop, en termes de probité et de transparence à nos élus, parce qu'ils, la séquence que nous vivons aujourd'hui en est la preuve et l'illustration, parce qu'ils n'ont pas donné les résultats escomptés par les promesses que tous, hein, à droite et à gauche, avaient faites depuis 15-20 ans.
Moi, je me permets de vous dire juste une chose. À force d'avoir une exigence de probité, on commence à créer un sentiment qui est, en gros, les politiques, ils sont incorrigibles.
Non, c'est le cas avant. Le tous pourri, c'est ce qui circule depuis des années, notamment dans les partis d'extrême.
Si vous me permettez, je vous donne un témoignage. Je pense que la majorité des femmes et des hommes politiques sont des gens qui sont honnêtes, qui font leur travail et qui font leur travail dans les conditions qui sont définies. Après, il y a un moment donné, vous savez, les choses sont tellement complexifiées. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, savoir maîtriser ses dépenses de campagne électorale, c'est de plus en plus difficile. Et pour faire chuter quelqu'un en campagne électorale, c'est assez facile sur la question des dépenses. C'est devenu, il faut un bac plus 7 pour bien maîtriser ses dépenses électorales. Attention, ce que j'ai droit et tout. Donc, je dis simplement, il faut faire attention. Et pour faire attention, vous savez, il y a une chose très simple. Il vaut mieux que ce soit des gens qui ont expérimenté la vie politique.
C'est peut-être René Dozière.
Oui, mais justement, mais René Dozière,
René Dozière, j'explique juste, c'est un député PS très en pointe sur la probité et sur la morale en politique et qui a fait donc des propositions.
Sur les comptes publics.
Voilà, à François Bayrou.
Là, on n'est pas sur les comptes publics, on est sur les.
Non, mais le financement de campagne, c'est les subventions aussi.
D'accord. Mais voilà, donc je pense qu'il faut faire attention. Voilà, l'expérience de la vie politique m'a montré que des fois, on passait d'un extrême à un autre. Voilà.
Alors, Antoine Bonneau. On est loin de l'autre extrême.
Antoine Bonneau. Je crois qu'on est en train de découvrir un petit peu la poudre. C'est que notre système institutionnel est intrinsèquement générateur de dérapage. Je me demande si là, d'un côté, il n'y a pas des mesures qui sont purement cosmétiques et de l'autre côté, je suis d'accord avec Julien Dray, on va un petit peu loin, parce que où placer le curseur entre compétence et collusion ? C'est très compliqué. Prenez par exemple le cas des assistants parlementaires. Ben, quand on est assistant parlementaire, il peut y avoir des conflits d'intérêts, on peut avoir un emploi qui n'est pas très réel et faire sa vie politique à côté, ça c'est pas bien, mais d'un autre côté, c'est en étant assistant qu'on apprend la vie politique et qu'on peut devenir, une fois qu'on est élu, un politique qui sait à peu près comment faire.
Mais où placer le curseur ? Je pense que aussi toute l'histoire vient du fait que il y a des assistants parlementaires qui travaillent et très bien et d'autres où on ne sait pas aujourd'hui vous savez très bien ce qui s'est passé.
Je connais une épouse de sénateur qui bosse comme une assistante parlementaire de base qui n'arrête pas et je vois pas pourquoi on lui interdirait de continuer
très rapidement. Très rapidement le système français écoute très peu le système parlementaire français aux citoyens français. Si vous regardez d'autres pays des démocraties importantes, allons aux États-Unis, on va en parler tout à l'heure. La réalité c'est que le coût de la démocratie c'est un coût et garantir la probité et la moralisation alors peut-être pas un très bon exemple aux États-Unis, mais encore que si, parce que le Parlement américain fonctionne plutôt bien et les parlements d'État encore davantage, c'est qu'on dépense plus d'argent autour des staffs de chacun des parlementaires. La vie du parlementaire dans son travail est très pauvre, finalement, en termes de moyens.
Il faudrait créer un statut de l'élu.
Dans un instant, on va parler de la campagne des législatives. On va parler dans un instant de la campagne des législatives, puisque c'est dimanche, le premier tour, je vous le rappelle, l'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Le Modem assure avoir respecté toutes les règles sur l'emploi de ses assistants parlementaires, alors qu'un ex-collaborateur du parti a contesté hier devant la justice la réalité de son emploi comme assistant parlementaire auprès de l'eurodéputé Jean-Luc Benamias. France Info le révèle, une dizaine d'employés du Modem étaient rémunérés comme assistants parlementaires européens. Donald Trump ne m'a pas demandé d'arrêter l'enquête sur la Russie, mais ses questions étaient très dérangeantes. Le témoignage clé de l'ancien patron du FBI, James Comey, cet après-midi devant la commission au Sénat américain. Plus de 2h30 d'audition, il dit ne pas avoir de doute sur une ingérence russe dans l'élection américaine. Les salariés de GMS rencontreront Emmanuel Macron demain en Haute-Vienne. Les 277 salariés de cet équipementier automobile sont en colère. Il n'y a pas à ce jour de repreneur ferme pour maintenir le plus d'emplois possible dans la Creuse. Mais des entrepreneurs peuvent encore se manifester jusqu'au 20 juin. À Roland-Garros, la deuxième place en finale, c'est pour la Roumaine Simona Halep. Elle vient de battre en 3-7 la Tchèque Pliskova. La première qualifiée, elle n'a que 20 ans. La Lettonne Ostapenko et qui a battu la Suissesse Bachinski en 3-7. Et puis la Tour Eiffel sera éteinte ce soir en hommage aux victimes des attentats de Téhéran. 17 morts et des dizaines de blessés hier matin dans la capitale iranienne.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Yannick Halmy du Parisien, aujourd'hui en France, le porte-parole du Parti Socialiste Julien Drey, également l'écrivain et chroniqueur Antoine Bueno et Jean-Christophe Gallien, communicant. Combattre l'abstention, vous savez, c'est aussi pour des raisons sociales. Hein. Comment une femme ou un homme qui toute sa vie a été élu peut-il gérer sans sombrer? On le voit actuellement avec Arnaud Montebourg, largement battu à la primaire socialiste et qui a décidé de se lancer dans la production de miel. Voilà, oui, votre bulletin de vote a une vraie valeur en tout cas. Des élections législatives dont un premier tour sera dimanche prochain et qui se révèle être un vrai chemin de croix pour de nombreux candidats socialistes, même pour les plus connus d'entre eux. Selon les sondages, une défaite historique pourrait sortir des urnes, mais pas de panique pour le premier secrétaire du PS. Il faut rester calme. Nous qui avons tout eu, nous savons que nous pouvons tout perdre. Oui, c'est ce qu'il a dit. On se rassure comme on peut, Jean-Christophe Cambadélis.
C'est à partir du moment où on a eu tous les pouvoirs qu'on les a tous perdus. Et c'est pour ça que je ne suis pas inquiet sur la suite. La centralisation autour d'Emmanuel Macron dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et maintenant sécuritaire va créer des tensions, des contre-pouvoirs, des volontés de voir le pays respirer autrement.
Voilà, Jean-Christophe Cambadélis ce matin sur RTL. Alors, Julien Drey, après présidentiel où Benoît Hamon a fait 6%, vous avez dit le socialisme ne peut pas disparaître.
Oui. Je le maintiens. Voilà. Vous verrez d'ailleurs. Et
très bien.
Rendez-vous.
Et bah, très bien. Prenez rendez-vous. Je le note. Attendez, j'ai un petit agenda. Justement, mais le Parti socialiste, là, au vu des sondages, est-ce que vous en êtes sûr de ça? Est-ce qu'il peut disparaître?
Bon, écoutez, maintenant, c'est l'expérience qui va parler. Mais j'ai vu annoncer la mort du Parti socialiste plusieurs fois. Hein. Et on me disait, ça y est, c'est fini cette fois-ci, c'est définitivement fini. Rappelez-vous le livre de Bernard-Henri Lévy après la présidentielle de 2007, où on disait le cadavre renversé, etc. et tout. Bon, le Parti socialiste, il va falloir qu'il se redéfinissent, qu'ils se remettent en question, peut-être qu'il va falloir changer de nom, changer les formes, mais le combat qu'ils mènent, c'est pas un combat qui peut disparaître. Le combat pour la justice sociale, le combat contre les inégalités, le combat pour des droits fondamentaux respectés, le combat pour un autre modèle de production, ça reste un combat d'actualité et il disparaîtra pas du jour au lendemain, loin de là. Je sais que, vous savez, c'est une vieille histoire de faire disparaître le socialisme de la vie politique. C'est pas nouveau. Mais il n'a jamais disparu, heureusement, parce qu'il y a toujours eu des femmes et des hommes qui étaient attachés à défendre cet idéal. On subit un revers, très difficile, pénible pour ceux qui estiment que pour une part il n'est pas mérité. Il va falloir en tirer toutes les conséquences.
Antoine Bueno. Ah,
mais en fait, vous faites une distinction entre le socialisme et le Parti socialiste. Je crois que, la question c'était sur le Parti socialiste.
Mais il peut pas y avoir de.
Si vous changez le nom du Parti socialiste, excusez-moi, il est mort.
Dans la vie, je connais pas une doctrine qui ne s'incarne pas dans une formation. Voilà.
Vous avez parlé de justice sociale. Enfin, il n'y a pas que le Parti socialiste qui l'incarne.
Oui,
mais honnêtement.
Mais l'essentiel des grandes conquêtes sociales, c'est quand même les socialistes qui les ont faites quand ils étaient au gouvernement. Voilà. C'est ça qui a marqué l'histoire de notre pays, les grandes conquêtes sociales. Bon, voilà. Et je ne crois pas qu'on puisse faire longtemps, on peut faire de temps en temps telle ou telle mesure sociale. Et je n'ai pas l'apanage. Et pas moi, mais les socialistes n'ont pas l'apanage de tout. Mais il y a quand même un combat constant dans l'histoire de notre pays qui renvoie aux grands rendez-vous sociaux le combat des socialistes.
Une question quand même, Julien Drey. Est-ce que finalement vous aujourd'hui vous êtes porte-parole, vous portez la parole du Parti
Socialiste? Je suis pas le seul d'ailleurs.
Oui, bien sûr, vous êtes quatre à porter la parole du Parti Socialiste dans cette campagne. Est-ce que finalement vous en voulez à des gens comme Manuel Valls de s'être rapproché d'Emmanuel Macron, à d'autres ministres même du gouvernement qui aujourd'hui n'ont pas de candidat en marche comme Stéphane Le Foll, Myriam El Khomri, aujourd'hui de ne pas vous soutenir, de dire mon candidat dans la majorité prochaine ça sera Emmanuel Macron? Est-ce que vous leur en voulez?
Moi j'en veux à personne parce que je suis pas dans le règlement de compte personnel. Bon, je pense qu'on est dans un état aujourd'hui, il faut s'éviter ces choses-là. Il y a des choix qui ont été faits, on en discutera a posteriori et d'ailleurs la question va être simple. Elle sera posée à chacun d'entre nous. Est-ce qu'il a encore envie d'appartenir au Parti Socialiste? Est-ce qu'il croit qu'il a envie? Est-ce qu'il croit qu'il a encore quelque chose à y apporter? Est-ce qu'il croit qu'il peut servir cette cause et ce combat? Chacun d'entre nous va se poser cette question-là. Et je pense que ce que dit le premier secrétaire, et moi je le dirai aussi au soir du deuxième tour, maintenant il faut que chacun sache ce qu'il veut. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et parfois même de tenter d'avoir la crémière.
Yannick Halmy.
Moi, quand vous, Jean-Mathieu Pernat, vous posez à Julien Drey, est-ce que vous en voulez à Manuel Valls, à Marisol Touraine,
Stéphane Le Foll,
etc. Moi, je poserais la question plutôt, est-ce que vous en voulez peut-être à François Hollande et en tout cas à tous les caciques qui ont tenu le Parti Socialiste depuis des années, depuis une dizaine d'années, et qui n'ont pas fait le travail de réflexion et idéologique.
C'est ma question après.
C'est votre question après.
Ah bon, bah je plaisante. Ah bon, d'accord. Non, mais bien sûr, c'est ça. Sur cette question, voilà. Bien sûr, elle est essentielle.
Non, mais parce que c'est quand même les gens dont on parle qui se rallient à Emmanuel Macron, qui incarnent en partie quand même ce social-libéralisme qu'auraient pu incarner d'autres gens, comme Rocard en son temps, comme Strauss-Kahn en son temps et comme Valls.
Alors,
avant-hier. Je pense que, pardon, je termine, les responsables de ce qui se passe aujourd'hui, c'est plutôt évidemment tous les socialistes, mais ceux qui étaient aux commandes pour réfléchir sur le devenir idéologique du parti.
Bah, je viendrai. Cette réflexion n'a pas été faite.
Pour une part, elle a été faite. Je veux dire, on s'est posé des tas de questions, on a fait des tas de plateformes, des tas de projets, de programmes. Il y a un problème, si vous me permettez, qui est posé, c'est l'exercice du pouvoir. C'est celui-là qui est en cause. C'est pas la doctrine socialiste en tant que telle. C'est l'exercice du pouvoir.
C'est une doctrine qui doit être.
C'est l'exercice du pouvoir et la manière dont les choses sont passées. Alors, il va falloir certainement se poser des questions. Moi, j'ai dit depuis déjà des mois et des mois, vous m'avez entendu, dans vos propres colonnes d'ailleurs de Parisiens, j'ai dit que nous avions perdu ces 10 dernières années la bataille culturelle sur le plan idéologique. C'est-à-dire que le socialisme n'était plus une idée à la mode. Le socialisme n'était plus offensif. Il était extrêmement défensif.
Elle avait pas de sens. Une ligne cohérente.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à en parler. Je viendrai. Parce que vous savez, ici, on est un petit peu comme des chefs de gare. On parlera également de la droite, hein, qui est mal en point aussi pour ses législatives. Dans un instant, on parlera également éducation. Enfin voilà, il y a plein de choses à venir. C'est très chargé, hein, avant le vendredi, les informés de France Info.
L'astroroscope illico.
Astro Capricorne.
C'est moi.
Les astres sont unanimes. Vous êtes fait pour partir en voyage sous les tropiques.
Merci, mais je le savais déjà.
Et qui vous l'a dit?
C'est Astro Balance.
Avec Astro, cet été sera sous le signe de la chance. Alors quel que soit votre signe, ne perdez jamais une occasion de gagner illico. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Liberté.
Égalité.
Coopérer. En ce moment, c'est la semaine de la coopération agricole. Découvrez les coopératives agricoles dans toutes les régions françaises et participez aux animations. Rendez-vous sur notre site internet lacoopérationagricole.coop.
C'est au Havre et nulle part ailleurs que vous passerez votre été. À l'occasion du 500e anniversaire de la ville, plasticiens, designers, graphistes, metteurs en scène, romanciers, graffeurs viendront sur les traces de Niemeyer et de Monet réinterpréter cette cité étonnante. Du 27 mai au 8 octobre, avec plus de 60 artistes invités, l'art envahit la ville et le Havre n'a pas fini de vous surprendre. Œuvres monumentales, expositions, concerts, un été au Havre, c'est la grande redécouverte. Renseignements sur unétéauhavre2017.fr.
France Info Météo, avec Gauthier, mobilier, séjour, salon, chambre et dressing pour toute la maison, à retrouver dans nos magasins et sur gauthier.fr.
Et à Météo France, on retrouve Sébastien Léas.
Cette nuit, des orages vont remonter du sud-ouest vers le nord du pays, s'accompagnant localement de fortes rafales de vent, pouvant dépasser les 100 km/h. Demain, on attend encore des averses, voire des orages de la Bourgogne aux Ardennes et au plateau Lorrain. Et l'après-midi, le risque restera cantonné entre le Dijonais, la Lorraine et l'Alsace. Sur le reste du pays, le temps sera nettement plus calme demain. Les nuages bas seront fréquents, avec même quelques bruines possibles localement demain matin des plaines du sud-ouest à l'est parisien et au sud du Jura. Ces grisailles vont évoluer favorablement demain après-midi. Midi, on retrouvera des éclaircies plus nettes. Le soleil se montrera plus généreux sur un large quart nord-ouest et du pourtour méditerranéen aux Alpes. Mais il faudra parfois être patient sur le Languedoc pour voir de belles éclaircies s'installer. Les températures du lever du jour seront comprises entre 11 et 19 degrés. Et l'après-midi, le mercure affichera 19 à 29 degrés du nord-ouest au sud-est.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Les syndicats de GMS seront reçus demain par Emmanuel Macron. Aucune offre ferme n'a toujours été déposée dans les délais fixés pour la reprise de l'équipementier automobile creusois en redressement judiciaire. Le tribunal de Poitiers lui doit trancher dans 15 jours. L'ancien évêque d'Orléans mis en examen, Monseigneur André Faure, n'avait pas dénoncé des actes pédophiles d'un prêtre de son diocèse lui-même mis en examen pour ces faits en 2012, il y a 5 quand donc. Le grand oral de James Comey, l'ancien chef du FBI, entendu pendant 2h30 par le Sénat américain sur la possible interférence de la Russie dans l'élection présidentielle US, interrogé sur le limogeage de Michael Flynn, l'ancien conseiller de Donald Trump, le président des États-Unis lui aurait dit « J'espère que vous jugerez bon de laisser Flynn tranquille ». James Comey s'explique et explique comment il a perçu ces mots.
« He told me repeatedly that he had talked to lots of people about me. » Il m'a dit plusieurs fois qu'il avait parlé de moi à beaucoup de monde et qu'on lui avait dit que je faisais du bon travail. Donc ça m'a perturbé quand j'ai entendu à la télé que le président me limogeait à cause de l'enquête sur la Russie. Les explications publiques m'ont aussi perturbé car j'aurais été renvoyé à cause des décisions que j'ai prises pendant l'élection présidentielle. Même si la loi n'impose pas de raison pour renvoyer un directeur du FBI, l'administration a choisi de me diffamer et, plus important, de diffamer le FBI, de dire que l'organisation était désordonné, mal dirigé, et que ses membres avaient perdu confiance en leur leader. Ce sont des mensonges, purs et simples. Le FBI est honnête, le FBI est fort, et le FBI est et sera toujours indépendant.
James Comey, ancien chef du FBI devant le Sénat cet après-midi à Washington. L'Iran rejette les condoléances de Donald Trump au lendemain du double attentat de Téhéran contre le Parlement et le mausolée de l'Ayatollah Khomeini. Le président américain avait déclaré qu'il priait pour les victimes et que les États qui soutiennent le terrorisme risquaient d'être victimes du mal qu'ils encouragent. Propos jugé répugnant par le ministre iranien des Affaires étrangères. Et puis les Britanniques aux urnes depuis ce matin, élection législative anticipée, le scrutin devait porter sur le Brexit, mais l'enjeu s'est déplacé vers la sécurité après deux attentats en deux semaines. Les sondages prévoyaient hier encore entre 5 et 12 points d'avance au parti conservateur de Theresa May. Sur ses rivaux travaillistes, il était cet écart de plus de 20 points à l'annonce de la tenue du scrutin, c'était au mois d'avril. Les informés, suite et fin.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils sont venus clopin clopant sur la piste de danse du baloche de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Yannick Halimi du Parisien, aujourd'hui en France, également le porte-parole du Parti Socialiste Julien Drey, l'écrivain et chroniqueur Antoine Bueno, et le communicant Jean-Christophe Gallien. Nous parlons de la campagne législative. C'est dur hein, pour le PS, c'est vrai qu'on est un petit peu cruel puisqu'on profite de la présence de Julien Drey pour en parler. Jean-Christophe Gallien, vous, comment justement vous la voyez, cette campagne législative pour le PS? Après, on va parler des Républicains, bah, Emmanuel Macron, mais là pour le PS.
Depuis le quinquennat et l'inversion des deux scrutins, on a un ensemble électoral qui se terminera d'ailleurs par un cinquième tour, celui du vote de la confiance au sein de l'Assemblée. C'est là où on verra d'ailleurs s'il y a des grands mouvements. Mais c'est terrible pour les partis qui ont été éliminés dès le premier tour de la présidentielle, dans une stratégie d'élimination d'un certain nombre de candidats. Mais de quoi il s'agit en fait? Il y a une offre politique qui ne s'était pas tout à fait adapté à une fragmentation de la demande politique. Et je crois que le Parti Socialiste a été dit dans des mots qui étaient le combat culturel, idéologique. Il, en tant que parti politique, c'est devenu un parti zombie, c'est-à-dire qu'il est mort, il ne sait pas tout à fait qu'il est mort, et donc effectivement, il va certainement renaître d'une autre manière, et c'est peut-être ce qui va arriver d'ailleurs, mais j'ai l'impression qu'ils le savent déjà, au sein des Républicains, on n'en parle pas, mais il y a une telle division individuelle, c'est-à-dire qu'il y a des tels mouvements individuels qui d'ailleurs sont de bord, c'est-à-dire qu'il y a deux manières, il y a ceux qui ont tenté de partir chez Macron, d'opportunisme, et il y a ceux qui essaient de résister sur le terrain, on en parlait tout à l'heure, il y a des acteurs socialistes qui n'ont pas abandonné la marque socialiste, le brand socialiste et qui vont au terrain. La difficulté, c'est qu'il y a une telle confusion qui s'ajoute à la violence de cette campagne, encore une fois troublée par des événements relativement violents, qui fait que pour à la fois les candidats qui restent parfaitement inscrits dans une ligne politique, voire culturelle ou identitaire, et les citoyens qui font face à cette offre politique, c'est très compliqué et ça profite donc à un mouvement plus neuf, plus nouveau, en tout cas dans une brume.
Antoine Bonneau.
Non, mais moi je crois que ce que vivent les socialistes, c'est ce que vivent tous ceux qui ne sont pas en marche. C'est-à-dire qu'on a une logique de la Ve République qui là devient caricaturale, qui est celle d'une élection reine, qui est celle du président de la République. Et une fois que le président de la République est désigné, et en plus avec le Front National, je dirais même dès le premier tour, parce qu'on peut parler de représentativité et dire que Emmanuel Macron a été élu dès le premier tour avec à peu près 15 ou 16% du corps électoral, si on prend en compte les 9 à 10 millions de personnes qui sont mal inscrits ou pas inscrits, et les 22% d'abstentionnistes du premier tour. Et donc quand on gagne le premier tour face au Front National, encore aujourd'hui, parce qu'il y a encore un peu de Front Républicain et de vote utile, eh bien on gagne l'élection présidentielle. Et quand on gagne l'élection présidentielle, eh bien après, il y a un rouleau compresseur, tout est balayé derrière, et donc on n'entend plus parler, et puis, pardonnez-moi, on n'en a plus rien à foutre, et des Républicains, et des socialistes, et de tout ce qui n'est pas en marche.
Alors, justement, on va entendre tout à l'heure un son, mais
ce qui est évident, c'est que l'inversion du calendrier, moi j'étais contre à l'époque.
C'est Lionel Jospin.
Oui, je sais, mais elle crée une logique infernale. C'est évident qu'à partir du moment, moi j'avais ce débat-là avec des hautes haute autorité de l'État, comme on dit en février, qui se posait la question de savoir si Macron allait avoir une majorité. Et j'avais d'ailleurs dit dans un interview, il y aura une Macron-mania. Et ouais, ça sera, c'est la logique.
La logique.
Et d'ailleurs, la logique de la cohérence de ceux qui votent pour un candidat et qui veulent lui donner les moyens de gouverner le pays après, à part s'il y a une faute dans le mois. Mais Emmanuel Macron est assez habile et connaît bien l'histoire du pays pour pas recommencer l'histoire de la TVA sociale avec Borloo en 2007. Bon, donc on voit bien d'ailleurs qu'il essaye d'écarter. Et c'est pas un hasard si demain, comme par hasard, il va rencontrer un certain nombre de salariés. Tout ça est calculé, millimétré. Bon, maintenant, on pêche les uns et les autres sur une faute politique. Tant qu'on ne réformera pas ces institutions et qu'on n'aura pas le courage de faire cette réforme des institutions qu'on attend, et pas sur des questions secondaires, sur les vraies questions les plus importantes, la représentativité, parce qu'on va avoir une Assemblée nationale qui pose un énorme problème. Je regardais encore les derniers sondages. On va avoir grosso modo 30% du corps électoral qui va avoir 90% de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que à tout moment, dès qu'il va y avoir un conflit, le lieu de débat politique ne sera plus l'Assemblée nationale.
Est-ce que finalement cette critique envers le gouvernement en disant...
Mais c'est une critique que je m'adresse à moi-même. J'ai dit à François Hollande, voilà, nous payons le fait de ne pas avoir fait cette dose de proportionnelle qui aurait été utile.
Jean-Christophe Combadélis critiquait en disant Emmanuel Macron, il a tous les pouvoirs, mais le PS aussi, il l'a eu.
Oui, c'est vrai.
Toutes les régions, le Sénat, les députés...
Il y avait, si vous voulez, la seule chose, c'est que entre 300 députés qui fait une bonne majorité et 400 et une disparition d'un certain nombre de forces politiques du débat parlementaire, ça change quand même.
Ce qui vient d'être dit est vrai. On parle même de parti unique si jamais les pronostics étaient réalisés avec 380, 400, voire plus. Mais souvenez-vous ce qu'on disait il y a quelques mois lorsque Emmanuel Macron n'était pas assuré d'être président, mais c'était une probabilité, qu'on soulignait tous, y compris vous, monsieur Drey, en tout cas vos collègues, soulignaient le risque de ne pas avoir de majorité. Souvenez-vous qu'on parlait du risque de la 4e République, du système des partis. Voilà qu'on tombe dans l'autre extrême. Alors, bon,
moi, je ne l'ai pas fait.
Vous ne l'avez pas fait individuellement, mais il y a une partie de la classe politique qui l'a fait.
Oui, d'accord. Mais bon, c'est pas parce que la critique était...
Il y a une logique de la 5e République qui est celle-là.
C'est pas parce que c'était mal que ça n'a pas été interprété comme ça qu'il faut continuer aujourd'hui. Voilà. Je pense que, de toute manière, la question qui est posée, et il va falloir qu'un jour on ait le courage politique de l'aborder, c'est la question de la représentativité de l'Assemblée nationale.
C'est dans le programme de Macron,
le problème, c'est que je sais ce que c'est que de l'avoir quand on est dans l'opposition, l'idée de faire la proportionnelle.
Mais c'en est une autre après de la faire.
Parce que après, quand vous voulez la faire, on vous dit ah, vous allez faire rentrer le Front National, vous allez donner plus de choses. Alors on prend peur et on le fait pas.
C'était dans la corbeille de mariage avec François Bayrou.
Ah bah oui, mais c'est un nom à ne plus prononcer.
Encore faut-il qu'il reste au gouvernement.
Justement, une petite question, Julien Drey. Quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon, que vous connaissez un tout petit peu, dire qu'il veut remplacer le PS, qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, il peut souhaiter remplacer le PS, mais ça fait déjà maintenant...
La présidentielle lui a montré qu'il était en avance.
Oui, on va voir ce que va donner la législative et on va voir ce qu'il est en train de faire. Parce que le problème de Jean-Luc, et je l'appelle Jean-Luc exprès, c'est qu'il fait des choses extraordinaires et après il a un don incroyable pour détruire ce qu'il a construit. Voilà. Et d'une manière quasi méthodique. C'est-à-dire que là, on recommence l'erreur de 2012, comme il y a eu d'autres périodes où j'étais moi. Il avait détruit un courant politique qu'on avait fabriqué du jour au lendemain. J'avais jamais rien compris. J'ai toujours, 15 ans après, je me pose toujours la question de savoir pourquoi il a fait ça. Bon, voilà. Là, il est rentré dans une logique sectaire qui fait d'ailleurs, qui va être un des problèmes de cette élection. Ce qui fait qu'un certain nombre de députés de gauche ne vont pas être élus à cause de la division. Voilà, c'est aussi ça qui amplifie la vague.
Eux, ils disent ça pour vous aussi. Ils disent, vous n'auriez plus vous rallier à nous.
On était prêts à discuter. Il n'a pas voulu discuter. Il n'a pas voulu discuter avec nous, mais il n'a même pas voulu discuter avec les communistes qui avaient apporté les signatures pour être candidat à l'élection présidentielle. Ça veut dire un enfermement sectaire. Excusez-moi.
Allez, l'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Donald Trump n'a jamais exigé de James Comey sa loyauté. Réaction de l'avocat du président américain il y a quelques minutes après l'audition explosive de l'ancien patron du FBI. James Comey témoignait devant la commission du Sénat sur une possible intervention de la Russie lors de la présidentielle et le rôle de Michael Flynn, un proche de Trump. Une dizaine d'employés du Modem étaient rémunérés comme assistants parlementaires européens. C'est une information France Info. Un ancien salarié a fait un signalement au parquet de Paris. Il affirme avoir bénéficié d'un emploi fictif d'assistant parlementaire alors qu'il travaillait au siège. Une dizaine de salariés du Modem étaient parallèlement collaborateurs d'eurodéputés. Le Modem dit ce soir avoir respecté toutes les règles. L'ancien évêque d'Orléans, André Faure, mis en examen pour non-dénonciation d'actes pédophiles, une information France Bleu Orléans. Les faits qu'il n'aurait pas dénoncés concernent un prêtre mis en examen en 2012. Les salariés de GMS en colère iront demain à la rencontre d'Emmanuel Macron en Haute-Vienne. Il n'y a pas de repreneur officiellement déclaré pour cet équipementier automobile de La Souterraine dans la Creuse. À Roland-Garros, la deuxième place en finale, c'est pour Simona Halep. La Roumaine vient de battre la Tchèque Pliskova. La première dame qualifiée cet après-midi n'a que 20 ans, la Lettonne Ostapenko, qui a battu la Suissesse Bachinski en 3-7.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on parlait justement là d'Emmanuel Macron. On regarde petit à petit chaque jour les pas de ce nouveau gouvernement, donc d'Edouard Philippe. On a beaucoup parlé hier dans les informés de France Info d'état d'urgence. Et là, on va parler, on a un peu de temps encore, de but. On va parler d'éducation. Et oui, puisque le but de chaque ministre de l'éducation, vous savez, c'est de faire vivre au mieux le milieu éducatif et de lutter contre l'échec scolaire, pas forcément d'améliorer l'entente entre voisins. En effet, préparez-vous à des jours difficiles dans votre immeuble, puisque le nouveau ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, a eu une très chouette idée, munir toutes les écoles d'une chorale et de multiplier l'enseignement d'un instrument de musique. Ça promet des week-ends très animés. Outre la possible fin des devoirs à la maison et la semaine de 4 jours à discrétion des municipalités, le ministre de l'Éducation souhaite de nouveau autoriser le redoublement, contrairement à l'ex-ministre Najat Vallaud-Belkacem, qui en 2014 avait pris un décret confirmant le caractère exceptionnel du redoublement. Une marche arrière qui ne plaît pas à tout le monde, notamment au syndicat FCPE et à sa présidente Liliana Moyano.
Dans la plupart des pays, il n'existe plus de redoublement. Il y a un travail vraiment d'accompagnement pédagogique qui s'est fait. Donc nous pensons effectivement que c'est une fausse bonne idée.
Voilà, Liliana Moyano, donc présidente de la FCPE. Jeannine Calimiscu, il y a aussi une volonté, un petit peu, quand on est ministre de l'Éducation, de défaire ce qui a été fait avant pour dire ce qu'on va appliquer, c'est toujours mieux.
Oui et non, on a l'habitude effectivement de ce que vous dites. Là, si vous avez lu in extenso l'interview dans le colonne Monsieur Blanquer, il dit justement qu'il ne veut pas relancer un nouveau cycle de réformes et retourner le gant. Sur le coup du redoublement, si vous aviez lu et si vos auditeurs,
on confond maintenant.
Ne l'ont pas lu, je les invite à lire. Ouais. Il dit qu'il est contre l'interdiction parce qu'il y avait une interdiction inscrite dans le marbre, dans la loi ou dans le règlement, je ne sais pas, enfin dans la loi aujourd'hui. Et là, ce qu'il prévoit, c'est seulement...
Il n'y a pas d'interdiction. Et ce qui était dit, il faut bien préciser les choses, c'était que ça devait rester exceptionnel.
Ah bah c'est ce que dit le ministre.
Oui.
Non, je vous assure.
C'est pas exactement ça.
Il dit que c'est... Bon, peu importe. Ouais. Pour répondre à votre... Oui. Si, il est quand même nuancé sur le fait de dire que le redoublement... doit devenir normal. C'est pas ça du tout.
S'il était nuancé, à ce moment-là, il en parle pas, il laisse faire le système qui marche bien. S'il en parle, c'est qu'il a bien une idée derrière la tête, excusez-moi. Et donc,
qu'est-ce que vous suspectez qu'il mette tout le monde à redoubler?
Non, mais 30 secondes. On n'est pas obligé de caricaturer les gens.
Allez-y.
C'est même. Non, justement, je ne veux pas le caricaturer.
Donc, moi, je ne le caricature pas, mais je le connais. Je le connais. C'est pas quelqu'un nouveau dans le système éducatif.
Ah non.
Il a été au cœur des réformes Sarkozy. De suppression des postes. Il est dans une logique très élitiste dans sa conception de l'enseignement. Il a pas dirigé l'ESSEC par hasard. Voilà. Donc il a une forme. Bon, c'est votre droit. Moi, j'ai. Écoutez.
Non, je suis pas sûr de.
Je comprends.
C'est... Effectivement, il a dirigé l'ESSEC.
Je comprends votre scepticisme. Mais si vous voulez, si vous me permettez, on prend un pari, vous et moi, dans quelques mois, et on va voir ce qui va se passer dans
les questions. Mais justement, le fait de faire des études le soir, c'est pas de l'élitisme, c'est essayer de donner la chance à des gens qui n'ont pas cette culture à l'école.
Encore faut-il
de l'avoir dans l'école primaire.
Encore faut-il qu'il y ait la création des postes. Et alors, on avait un dispositif, notamment, qui avait bien marché avec la réforme des rythmes scolaires. Il est aujourd'hui en voie de destruction. Il n'y aura pas les postes. Je sais ce qui va se passer avec la réforme qui est en cours. C'est-à-dire qu'il y aura les enfants qui auront des parents qui pourront payer les études et puis d'autres qui pourront pas. On fera de la garderie puisque ceux qui sont chargés de faire la surveillance des devoirs, ce sont des services civiques. Ce sont pas des enseignants.
C'est vrai qu'Antoine Bueno, on revient aussi sur ce serpent de mer de rythme scolaire. Juste, Antoine Bueno revient toujours sur ce serpent de mer des rythmes scolaires. On voit bien que ça va encore faire débat de nouveau.
Ça, évidemment, mais faut revenir aux fondamentaux. Un ministre de l'Éducation nationale, quel qu'il soit, quand il arrive, il sait d'abord que c'est un ministre qui pourra rien faire ou pas grand chose. Donc, au départ, il faut bien qu'il affirme un certain nombre de choses tant qu'il est encore dans la vague de la réforme. Quant à savoir précisément si ça va être un ministre extrêmement élitiste, vous parliez des rythmes scolaires. Les rythmes scolaires, c'est pas tout à fait un détricotage. C'est beaucoup plus nuancé. Je parle pas du rétablissement des classes bilingues. Sur les classes bilingues, on revient. Sur le redoublement, oui, on peut dire qu'on revient sur ce qui a été fait. Sur le rythme scolaire, il faut quand même que les gens sachent que c'est un petit peu plus nuancé.
C'est ça.
C'est maintenir le système actuel, mais avec une possibilité pour les communes qui le souhaitent, et sur la base d'un dialogue avec toutes les parties prenantes, de revenir à un autre système.
Ça porte un nom, ça s'appelle la termite. C'est-à-dire que vous mettez la termite dans le système, oui. Vous savez ce que c'est que le bois, vous savez ce que fait la termite, elle ronge le bois et puis à un moment donné il s'écroule. Donc vous faites rentrer la termite, elle est petite, elle est discrète, on se dit mais voyez c'est pas très grave, la termite va faire son travail.
À ce compte-là, la décentralisation c'est la termite.
Non, ça n'a rien à voir.
Vous n'êtes pas décentralisateur. Bien sûr que si, c'est l'adaptation aux circonstances
locales. Ne changez pas de sujet, vous avez compris ce que je veux dire par là, ça veut dire qu'effectivement on s'attaque pas brutalement, parce que c'est toutes les collectivités locales, mais on crée la possibilité, quand on crée la possibilité pour plein de collectivités qui avait vécu ça comme une charge, et ben on va s'en dégager progressivement.
On voit poindre une méthode qui est effectivement celle-là. C'est-à-dire que finalement, moi je considère que il y a l'éducation, l'enfant malade de la République, pour le coup.
Ça c'est vrai.
Et on peut le voir de deux manières, effectivement, celle du traitement qui avait été engagé par François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem, et puis là on va avoir, il est clair, une réforme qui va se faire différemment, non pas dans l'affrontement, la crainte majeure c'est cette espèce d'affrontement encore que des forces pourraient se mobiliser, mais on sent poindre une envie qui est aujourd'hui extrêmement macroniste avant le premier tour, c'est-à-dire un peu la réforme du like, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord, on est là bien présent, on va faire ça par volontariat, et on discute, puis en réalité viendra effectivement la réforme du Macron président, en tout cas de celle
avec
de
majorité,
beaucoup
en fait,
plus violente. Et voilà, parce que revenons deux secondes sur la majorité.
Il y a une autre réforme qui est très grave, c'est la réforme du baccalauréat.
La vraie démarche du gouvernement, un des vrais enjeux de cette législative, ça va être effectivement cette majorité très imposante, mais pas seulement reliée à l'Assemblée nationale. Allons un peu plus loin. Il y a dans cette volonté de réforme du pays d'engager plus violemment, ça sera l'association de l'Assemblée nationale, du Sénat. L'objectif, c'est les 3/5. L'objectif concret, c'est d'obtenir une majorité beaucoup plus large et qui va plus loin pour aller plus loin dans les réformes de ce pays qui feront d'ailleurs que le pouvoir est plus large.
Pour en revenir à l'éducation.
C'est quoi, s'il vous plaît, comme ça?
Rapidement, pour en revenir à l'éducation. Il y a des points communs avec le quinquennat Hollande.
Heureusement qu'il n'y a pas.
Non, mais attendez, c'est des points. Je termine.
On va pas tirer un trait.
Je termine. Des points communs essentiels qui sont déterminants. Monsieur Macron, Monsieur Blanquer veulent mettre l'accent sur les premiers âges, sur la maternelle et la primaire. Ça, c'est important. Il veut faire un effort sur les zones d'éducation primaire. C'est prioritaire. Pardonnez-moi. Prioritaire. C'est extrêmement important. Et là où je vous rejoins, Julien Drey, où là, ça peut être effectivement une réforme fondamentale, mais dont on n'a pas encore les tenants et les aboutissants, c'est qu'il veut, le Blanquer et le gouvernement, veulent donner beaucoup plus d'autonomie aux établissements. Et là, ça peut être la porte ouverte, la termitière, ou je ne sais pas, au contraire la montagne, j'en sais rien.
Vous avez théorisé
la
termitière.
Mais là, c'est un élément fort, structurel, qui différencie Macron et Blanquer du quinquennat Hollande.
Il va y avoir une symétrie entre les deux enjeux qui sont les zones prioritaires dans les petites classes et la primaire, et la question, parce que le mot il faut le prononcer, de la sélectivité, de la sélection à l'université. Ça va être ça les grands
comme
pôles.
Comme on avait parlé avec Najat Vallaud-Belkacem à la rentrée dernière, la rentrée universitaire.
Sauf qu'elle l'avait fait en introduisant une universalité ou en imposant une universalité d'accès, mais effectivement la notion de sélection était aussi avancée. Là, on va aller, je pense, plus loin dans la question de la sélection avec des prérequis.
Alors, on va continuer à parler d'éducation dans un instant. L'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
C'est la fin du projet de reprise pour MIM, la marque de vêtements dont la liquidation judiciaire a été ordonnée fin avril. 4 salariés tentaient de reprendre la société sous forme de SCOP. Ce projet échoue faute de financement nécessaire. La liquidation apparaît inévitable, la fin de 110 magasins et 550 emplois. Le MoDem assure avoir respecté toutes les règles sur l'emploi de ses assistants parlementaires, alors qu'un ex-collaborateur du parti a contesté hier devant la justice la réalité de son emploi comme assistant parlementaire auprès de Jean-Luc Benamias. C'est une information France Info. Une dizaine d'assistants parlementaires européens sont soupçonnés d'avoir en réalité travaillé uniquement pour le MoDem. Donald Trump ne m'a pas demandé d'arrêter l'enquête sur la Russie, mais ces questions étaient très dérangeantes. C'est l'ancien patron du FBI, James Comey, qui l'évoquait devant la commission du Sénat. Une audition de 2h30 cet après-midi, et Comey dit ne pas avoir de doute sur une ingérence russe dans l'élection américaine. À Roland-Garros, la première dame qualifiée pour la finale n'a que 20 ans, la Lettone Ostapenko. Elle a battu cet après-midi la Suissesse Bachinski en 3-7. Autre demi-finale avec la victoire de la Roumaine Alep qui la rejoint donc en finale. C'était un immense honneur de vous accompagner. David Pujadas a conclu ce soir son dernier journal de 20h sur France 2 sous les applaudissements de son équipe autour de lui. La fin de 16 années de règne sur la deuxième chaîne.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous étions en train de parler de Jean-Michel Blanquer. Alors dit comme ça, Jean-Michel Blanquer, hein, forcément, on ne sait pas avant la discussion, parce que c'est le nom du nouveau ministre de l'Éducation. Hein, et aujourd'hui, il a parlé de ses projets. Alors on a surtout retenu sur le retour du redoublement qui serait possible également. Mais il y a également un arrêté qui sera applicable dès la rentrée, qui propose donc le retour des classes bilingues, du latin et du grec, et la fin du projet interdisciplinaire obligatoire, soit finalement la réforme du collège. Julien Drey, donc là, il y a une volonté aussi peut-être de se démarquer de ce qui a été fait avec une réforme symbolique aussi du quinquennat Hollande.
Oui, la question qui est posée, c'est pour l'instant, c'est ça le problème. C'est qu'il y a un nuage de fumée qui est fait par le ministre de l'Éducation nationale, fait de bons principes. D'ailleurs, il commence toujours. J'ai jamais vu une réforme qui commençait par des mauvais principes.
Oui,
hein, toujours les ministres de l'Éducation nationale sont rassurants en disant ce qu'on fait, ça allait dans le bon sens, etc. Je connais, moi je vous le dis, il y a des choses que je connais pas bien dans la vie, mais l'Éducation nationale, je crois que je connais. Et je suis fils d'instituteur, j'étais enseignant, et puis j'ai quand même quelques traditions.
Vous avez animé un petit peu.
Je connais ce personnage. D'ailleurs, quand j'ai vu la constitution du gouvernement, j'ai pas eu la grimace qu'a eu Najed Vallaud-Belkacem, mais moi je me suis dit, mais qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a fait là? Voilà, je pense que c'est un personnage qui va être sujet à problème. Alors soit il met sous la paille, sous la l'été noir ses convictions, soit il défend. Comme moi, je lui fais confiance pour défendre ses convictions, parce qu'il l'a toujours fait. Je sais qu'il a une vision totalement élitiste du système éducatif, c'est-à-dire la vieille histoire que je connais, qui est la vieille histoire de la droite d'ailleurs. C'est en gros des écoles parking où on met tous ceux qu'on doit mettre là, et puis on prend les meilleurs. Y compris dans les quartiers, d'ailleurs. On crée des filières pour prendre les meilleurs dans les quartiers. Et hop, ceux-là, on les protège.
Alors, voilà. Antoine Bueno. Mais pour autant, la mesure phare du président de la République, Emmanuel Macron, va exactement à l'inverse de ce que vous dites.
C'est-à-dire
mettre l'accent et la priorité sur les zones d'éducation prioritaire, sur les petites classes.
Ça fait 20 ans. Je vais vous dire, et c'est même quelque chose qui va à l'encontre de ma propre famille politique. Ça fait 20 ans que j'entends dire priorité absolue aux zones d'éducation prioritaire, mais quand je vais sur le terrain, je suis toujours en train de compter les moyens.
Là, c'est chiffré.
Non, mais je crois que le message est clair. Il a été décrit. Je pense que c'est une vraie volonté de Macron, là, pour le coup. C'est pas la vraie volonté de Macron, c'est de choisir un personnage qui porte ses idées, qui a des convictions, qui va les soutenir. Je crois que ça fait partie du programme. Ça n'est pas. On a une vraie volonté de rupture. Enfin, disons-le, volonté de rupture avec ce qui s'est fait précédemment. Et c'est un choix fort sur encore une fois un enjeu majeur de ce pays comme tous les autres, c'est-à-dire celui de l'éducation.
Vous
verrez que la notion libérale en matière d'éducation va s'appliquer à elle aussi.
Je suis d'accord. Je vais même compléter. C'était d'un débat que j'avais quand il était ministre. Il est fasciné par le modèle anglo-saxon. Voilà. Et donc la manière dont il va conduire les choses, c'est le modèle anglo-saxon.
Janine Kelly.
Moi, j'avoue que je connais moins bien Monsieur Blanquer que vous le connaissez, Julien Drey, mais il faut bien voir aussi que Monsieur Blanquer est ministre d'un gouvernement et d'un gouvernement qui est sous la houlette d'un président de la République. Parce qu'il a Monsieur Blanquer. Encore une fois, je n'en sais rien. Moi, je n'injurie pas l'avenir. Mais tout montre que mettre à la place dans des ministères des ministres qui ne sont pas qui pourraient aller à l'encontre de ce que leur dicte, si je puis dire, leur itinéraire, c'est un peu aussi la façon de faire de Macron. Monsieur Hulot va devoir gérer le nucléaire, par exemple, pour prendre un exemple.
Mais l'éducation nationale, c'est pas la même chose.
Il faut peut-être éviter de tirer comme
L'éducation nationale, c'est pas l'énergie, c'est l'avenir de nos enfants, c'est des milliers de fonctionnaires.
C'est pas rien non plus.
Non, mais d'accord, mais ce n'est pas la même machine administrative. Et ça n'a pas les mêmes
conséquences. Mais ça, c'est autre chose. Vous parliez de Monsieur Blanquer.
Votre propos, Julien Drey, est outré. On ne peut pas imaginer qu'il va libéraliser, qu'il va faire de l'école française une école 100% anglo-saxonne sur la foi d'un certain nombre d'orientations.
Le but de l'émission, c'est de caricaturer ce que vous dites, de chacun, on ne va pas s'en sortir. Je porte témoignage que Emmanuel Macron est fasciné par le modèle anglo-saxon, sur le plan universitaire notamment, comme sur le plan scolaire. Et je pense qu'il va essayer non pas de transformer l'université l'école française en une école américaine, mais les principes.
Vous pensez qu'on va revenir sur l'autonomie des universités
comme... non, au contraire, on va accentuer encore plus, parce que c'est
ça. On
va accentuer le recrutement par les universités, comme par les établissements scolaires des professeurs, ce qui va donner. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est la logique obligatoire, c'est ça le système anglo-saxon, c'est qu'il y aura les bonnes filières et il y aura les mauvaises filières.
Alors, c'est pas le cas aujourd'hui.
Chacun son tour.
Les grandes écoles,
les grandes écoles, c'est une partie de notre système éducatif, mais on a réussi, c'est la réussite de ces 30 dernières années à permettre à des milliers d'enfants d'aller à l'école et de progresser. Et c'est pour ça que même y compris, je suis prêt à avoir avec vous la discussion sur le niveau, vous verrez qu'on aurait des surprises si on regardait véritablement les statistiques.
Vous avez pris beaucoup d'engagements que j'ai notés ce soir d'ailleurs,
oui.
Julien Drey, hein, vous devez revenir. D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, c'est noté en tout cas. En plus, c'est l'engagement que vous tenez, vos engagements. Donc voilà, fallait terminer au moins là-dessus. Merci beaucoup, Julien Drey, d'être passé ce soir aux Informés de France Info. Merci Antoine Bonneau, merci Jean-Christophe Gallien. La Une du Parisien aujourd'hui en France, demain, Jeannick Alimi.
Demain, nous allons faire des révélations sur soi-disant médicament qui s'appelle la codéine.
D'accord, à retrouver donc en Une du Parisien aujourd'hui en France. Merci.